Les textes d'aujourd'hui nous invitent à méditer sur la beauté du visage de l'Église. L'Église, nous le savons, ce n'est pas seulement une organisation humaine, avec le pape à la tête et puis le reste qui obéit. Ce n'est pas seulement une institution humanitaire ou une institution sociale qui a fait de grandes choses pour notre civilisation occidentale et pour le monde en général. L'Église, c'est avant tout une réalité surnaturelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas uniquement le fruit du travail et de la volonté des hommes. C'est le Christ qui a institué l'Église en mourant sur la croix, en déléguant à ses apôtres, nous pouvons dire ses pouvoirs, ou en tout cas sa capacité à sanctifier. Ces apôtres dont nous entendons le travail dans la première lecture des Actes des Apôtres, nous voyons bien qu'ils ont eu du mal à établir l'Église dans les villes de l'époque et dans les communautés juives de l'époque particulièrement, et que là où il y a eu des victoires, elles n'étaient pas dues seulement à justement à leur travail ou à leurs compétences ou à leur charisme, mais d'abord à l'action de Dieu. Et cela se vérifie ensuite dans toute l'histoire de l'Église, quand les hommes d'Église en général, qu'ils soient clercs ou laïcs, ont voulu établir le règne de Dieu sans faire appel à Dieu, eh bien cela a été de courte durée. Et au contraire, quelquefois, des membres de l'Église, tout faibles, qui paraissaient rien du tout, nous pouvons penser à Sainte Bernadette, nous pouvons penser particulièrement cette année au curé d'Ars, eh bien, quand ils ont mis leur confiance en Dieu, alors qu'ils n'avaient rien pour eux, ont réussi à faire des choses énormes. La beauté du visage de l'Église, c'est celle-là. C'est de la regarder dans sa totalité. Nous sommes l'Église de la terre. Nous, les plus âgés ont entendu le terme d'Église militante, l'Église qui travaille au règne de Dieu, l'Église visible, qui peut sembler quelquefois bien faible, qui peut sembler quelquefois bien superficielle, et qui pour autant dépasse largement ses considérations. Et puis il y a l'Église du ciel, à laquelle nous ne pensons pas assez souvent peut-être, parce qu'elle est invisible. L'Église du ciel, c'est l'Église de tous ceux qui nous ont précédés sur cette terre, qui nous ont transmis la foi, qu'ils soient encore une fois membres de l'Église institutionnelle, des clercs, ou qu'ils soient des laïcs. Tous ceux, nous pouvons penser à nos parents, s'ils sont déjà au ciel, nous pouvons penser à nos grands-parents, tous nos aïeux qui ont travaillé à ce règne de Dieu, à leur manière, chacun selon ses possibilités, et qui, déjà au ciel, commencent la louange de Dieu, comme nous l'avons entendu dans l'Apocalypse. Il faut se dire que, si le livre de l'Apocalypse n'est pas à prendre à la lettre, puisque c'est un style d'écriture, il nous révèle quand même des choses essentielles sur notre vie ici-bas. L'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, c'est la contemplation du royaume de Dieu tel que nous le connaîtrons après cette vie sur la terre. Et pour autant, ça ne veut pas dire que nous devons nous projeter toujours dans le futur après notre mort. Nous ne pouvons pas dire « je serai bien avec Dieu après ma mort, je serai un saint après ma mort, je prierai après ma mort, je serai devant lui. » Non, ça c'est pas possible. C'est déjà sur cette terre qu'il nous faut vivre comme cette foule immense qui loue le Seigneur devant son trône. C'est déjà sur cette terre que nous devons être des saints, que nous devons prier, que nous devons vivre comme des membres de l'Église du ciel. Encore une fois, nous ne sommes pas membres d'une organisation non gouvernementale, nous sommes membres du corps du Christ. Et le bon pasteur de l'Évangile, il n'est pas venu pour nous dire « vous serez heureux après votre mort, vous serez des saints après votre mort ». Le bon pasteur qui est venu nous guider, c'est bien pour nous guider sur cette terre. Quand nous serons au ciel, nous n'aurons plus besoin d'être guidés, nous aurons tout pour nous. Nous serons devant Dieu, nous n'aurons plus aucune question à nous poser, et nous serons comblés de bonheur. Donc il ne faut pas attendre notre mort, il ne faut pas attendre d'être délivré des peurs, des pesanteurs de cette terre, pour nous dire que nous ferons les choses une fois que nous serons morts. Nous commençons à faire les choses comme les apôtres l'ont fait à évangéliser, comme les apôtres l'ont fait à prier, à vivre de l'Eucharistie dès ici-bas. Et notre sainteté, elle commence depuis notre baptême, elle est commencée depuis notre baptême. C'est un chemin, nous avons besoin de ce guide qui nous connaît, nous avons besoin du Christ qui nous aime, de Jésus qui nous aime, et nous avons besoin à notre tour de progresser, d'avancer dans son amour. Dans les Actes des Apôtres que nous avons entendus tout à l'heure, il est raconté cette mauvaise réaction des habitants d'Antioche, de la synagogue d'Antioche, particulièrement des Juifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les synagogues du temps de Jésus, il n'y avait pas, surtout dans les grandes villes, il n'y avait pas que des Juifs. Il y avait beaucoup de gens qui venaient s'instruire, des gens qu'on appelait les païens, des Grecs, des Romains, et puis des gens qui venaient d'Orient pour s'instruire sur la religion juive qui intriguait beaucoup, qui était une religion puissante et qui intriguait beaucoup les populations alentour. Et ce qu'on voit dans la suite des Actes, que nous allons lire les prochaines semaines et les prochains dimanches, c'est que très souvent, ce ne sont pas les Juifs qui se convertissent, mais les païens, ceux qui sont le plus loin, ceux qui n'ont pas reçu la première annonce de l'Ancien Testament. C'est assez paradoxal, mais pourtant ça doit nous parler un petit peu. Parce que si nous regardons bien dans la vie de l'Église, la vie de notre paroisse, la vie du diocèse, la vie de l'Église en général, si nous regardons bien, nous pouvons voir que très souvent, ceux qui sont les plus fervents à faire vivre l'Église, à défendre l'Église, ce sont ceux qui viennent de loin. Ça ne veut pas dire que ce ne sont que eux, bien sûr. Nous avons le droit d'être des chrétiens de naissance, baptisés jeunes et puis d'une famille chrétienne, bien sûr, et cela ne veut rien dire. Mais très souvent, ceux qui viennent de loin, ceux qu'on considère comme loin de l'Évangile, loin de l'Église, eh bien sont ceux qui viennent le plus facilement quand ils entendent une parole qui les touche ou quand ils voient dans la vie de l'Église des choses qui les interpellent. Aujourd'hui, Pauline, qui est parmi nous, va demander le baptême qu'il recevra dans 3 semaines, ici même. Elle va demander le baptême parce qu'elle l'a choisi librement. Elle a 8-9 ans, c'est ça ? Elle l'a choisi et parce qu'elle a entendu parler de Jésus, elle a eu envie de le connaître davantage et aujourd'hui, elle a ce désir de devenir fille de Dieu. C'est tout simple à comprendre. Non, bouge pas. C'est tout simple à comprendre pour elle. Ce sont des réalités tout à fait atteignables par un enfant. Peut-être, et sa spontanéité dans sa demande qu'elle m'a faite il y a quelques mois, sa spontanéité, je pense, est à prendre en exemple pour nous. La spontanéité des enfants, la spontanéité de ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'Église, ceux qui ne connaissent pas les sacrements, ceux qui ne connaissent pas, etc. Cette spontanéité qui les fait avancer, qui les fait tout simplement avoir le courage de demander à l'Église, donc demander à Dieu d'être reçu dans son cœur. Alors nous allons tout de suite procéder à cette demande de baptême, mais auparavant nous pouvons prier tout particulièrement pour une intention particulière que je ne peux pas vous livrer comme cela, mais pour quelqu'un qui est très malade et qui au soir de sa vie désire recevoir ce baptême aussi. Demandons pour cette personne qu'elle retrouve la paix du cœur, qu'elle trouve dans le sacrement qu'elle va recevoir les jours prochains, dans le sacrement de baptême, le sacrement de l'Eucharistie et de la confirmation qu'elle va recevoir ces jours prochains, non seulement cette paix du cœur après laquelle nous courons tous, mais aussi cette tranquille assurance que le Seigneur est toujours là, a toujours été là pour elle et est toujours là et sera toujours là pour elle dans son chemin de sainteté. Demandons-le aussi pour nous-mêmes de retrouver cette spontanéité, cette simplicité, cette confiance dans l'œuvre de Dieu, dans son Église, à travers l'Esprit Saint, dans l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, pour qu'il puisse sublimer ce qui en nous est faible, pour qu'il puisse faire grandir ce qui en nous est petit, pour qu'il puisse rendre droit ce qui est tordu, et qu'ainsi nous vivions véritablement dès cette terre comme cette foule nombreuse que saint Jean nous décrit, que nous vivions véritablement en fils de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.